Pour en venir à notre débat de ce soir intitulé « Quelle réforme pour nos vieilles retraites ?», le sujet est encore et toujours d'actualité, car on n'arrive pas à faire passer des réformes. On a eu, chacun se souvient de l'échec de prévoyance 2020, qui fait qu'on est resté toujours dans la même situation, avec ce problème lancinant créé par le vieillissement de la population démographique, enfin, le vieillissement de la population, pardon, et la chute des rendements sur les marchés financiers. On se trouve dans une sorte d'impasse actuellement et il faut absolument qu'on arrive à trouver un soutien populaire pour faire passer les réformes. À l'heure actuelle, après donc cet échec de prévoyance 2020, le Conseil fédéral s'est attelé à la tâche pour nous proposer un nouveau projet, mais qui se concentre cette fois sur AVS. C'est AVS 21. Mais ce projet a suscité déjà beaucoup de critiques, en particulier à cause du projet, enfin de la mesure consistant à relever l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, qui est une des mesures qui, selon de nombreux observateurs, a joué un rôle très important dans l'échec de prévoyance 2020. Quant à la prévoyance, à la réforme du deuxième pilier, le Conseil fédéral a choisi un autre chemin puisqu'il a décidé, en fait, dans une certaine mesure, de déléguer la tâche aux partenaires sociaux en leur demandant de préparer un projet de réforme. Donc ces organisations, c'est l'Union patronale suisse, l'Union syndicale suisse et Travail suisse. Et ces organisations ont remis leur copie en juillet au Conseil fédéral en faisant un certain nombre de propositions qui ont à nouveau été beaucoup critiquées, mais par d'autres milieux, pour d'autres raisons. Et on est dans l'attente, en fait, de la réaction du Conseil fédéral pour qu'il statue. Donc l'objectif est que ce projet, ce compromis des partenaires sociaux amène le gouvernement à proposer un projet de loi sur cette base. Voilà, alors le décor est planté. Je laisse maintenant la parole à nos débatteurs pour qu'ils se présentent brièvement. Donc je commence par Anne-Sylvie Dupont.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc mon nom est Anne-Sylvie Dupont. Je suis professeure ici à la faculté de droit de Neuchâtel, où je suis titulaire de la chaire de droit de la sécurité sociale et je suis titulaire de la même chaire à l'Université de Genève aussi. Et je mène des recherches plutôt en ce qui me concerne dans l'axe du premier pilier. Donc je suis plutôt une spécialiste de l'AVS et de l'AI avant d'être une spécialiste du deuxième pilier. Et je m'intéresse plus particulièrement à l'adéquation de la législation dans l'AVS et dans l'AI à notre modèle de société, à la société actuelle, et à voir comment on pourrait adapter l'AVS à la société dans laquelle on vit et dans laquelle on vivra dans 20-30 ans. Voilà.
Merci, Guy Longchamp. Chargé d'enseignement ici à l'Université de Neuchâtel, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, donc plutôt dans le deuxième pilier, avocat aussi à côté, ce qui fait qu'on... Et puis en plus aussi, parallèlement ou simultanément à tout cela, directeur à temps partiel, on en parlera après, dans une société de conseil dans le domaine du deuxième pilier. Donc l'aspect pratique et l'aspect scientifique, mais plutôt dans le deuxième pilier.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je suis l'intruse ici, puisque je ne suis pas chargée de cours à l'Université de Neuchâtel, puisque tous mes collègues le sont. Mon nom est Isabelle Amschwand. Je suis ici comme présidente d'une fondation collective, la fondation collective Trianon, FCT, qui est la deuxième plus grande fondation collective en Suisse romande. Je suis juriste de formation et mon curriculum vitae, en quelques mots, je viens de la prévoyance et impôts, parce que je trouve que c'est un sujet passionnant, les impôts. Je suis après passée par le FAS, des sociétés internationales, la direction de gestion de caisse de pension pour maintenant être indépendante et m'occuper principalement justement de présidence de fondation, des deux fondations collectives, FCT et FCT1E.
Bonsoir à tout le monde. Yvan Guidotti, je suis chargé d'enseignement ici à l'Université de Neuchâtel, à l'Institut d'analyse financière. Donc, je suis plutôt sur le côté des investissements. En plus de ça, Je travaille pour une boîte de conseil d'investissement pour de la clientèle institutionnelle. Donc, en nos clients, on a également des caisses de pension. Donc, voilà, c'est une autre expertise par rapport à mes collègues à côté. On est vraiment sur le côté des investissements pour les caisses de pension.
Très bien. Merci pour cette présentation. Alors, première question, quel est votre point de vue concernant l'état des lieux ? Est-ce que la situation est aussi grave qu'on le dit ? Et est-ce que le besoin de réforme est aussi nécessaire qu'on le dit aussi également ? On recommence par vous. On
voilà, va toujours. J'ai la mauvaise place, du coup, c'est toujours. Ah, bon, voilà. Oui, mais justement, c'est toujours mieux de pouvoir entendre ce que les autres ont à dire d'abord. Alors. Moi, je ne vais pas dresser un constat d'un point de vue économique parce que ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis juriste. Bien sûr, comme je suis citoyenne, que je lis la presse et que je m'intéresse à ça, je sais que ça ne va pas bien, mais je n'ai pas d'autres connaissances dans ce domaine-là que ce qu'on en lit dans la presse. Donc, vraisemblablement, je n'ai pas de connaissances plus pointues que vous s'agissant des problèmes de financement des assurances. Donc, le premier constat que je pose, et je pense qu'il est acquis pour tout le monde, mais peut-être que vous allez me contredire, c'est qu'aujourd'hui, on a, en tout cas si on envisage le moyen et le long terme, un problème de financement des retraites, d'où une nécessité de changement. De mon point de vue, ce qui me préoccupe un peu plus, et notamment par rapport à l'assurance vieillesse et survivance, c'est peut-être un peu moins vrai dans le deuxième pilier, mais dans le contexte de l'assurance vieillesse et survivance, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'on a aujourd'hui une législation qui est plus ou moins celle qu'on a adoptée dans les années 1950 avec un modèle de société qui était celui des années 1950. Donc on a aujourd'hui encore dans cette législation certains postulats de départ comme l'éternelle dépendance économique de la femme, la toute puissance économique de l'homme, ce genre de schéma-là qui à mon avis doivent évoluer parce que ça aussi c'est quelque chose qui a changé et qui va changer encore plus.
Peut-être là vous êtes allé peut-être un petit peu loin dans le débat.
Je ne veux pas entrer dans le débat mais c'était simplement...
Pardon ? Vous devriez la laisser terminer. Non, mais elle pourra s'exprimer, mais c'était juste pour qu'on fasse le tour. Juste.
Je vais terminer, mais disons que pour moi, le besoin de réforme, il est tout autant là qu'au niveau du financement. Et c'est pour ça que je vous en reparlerai effectivement.
Vous avez la question de vous exprimer là-dessus.
Oui, bon, disons que je pense qu'il faut distinguer les deux piliers. Donc c'est effectivement deux problématiques distinctes. Dans l'AVS, il y a effectivement peut-être des reliquats de 1946-47, donc à corriger, mais sous l'angle financier, le premier pilier est beaucoup plus impacté par la problématique de la démographie. Donc on le constate de manière générale, mais ce n'est pas seulement en Suisse, j'étais en Europe, en France notamment, où ils sont très impactés par ce problème de la répartition. Le principe de l'AVS, c'est les primes ou les cotisations payées en 2019 doivent couvrir les prestations qui seront payées en 2019. Alors, c'est vite vu. Plus il y a de rentiers, puis moins il y a de personnes qui cotisent, plus c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, aujourd'hui, la tendance, c'est qu'il y a moins de rentrées et plus de prestations payées. Alors, comment on fait ? Est-ce qu'on peut baisser les prestations ? Ça semble compliqué. Est-ce qu'on doit augmenter les cotisations ? Je ne suis pas sûr que les actifs soient d'accord et les employeurs. Alors, vous voyez, on en arrive des fois à des impasses, mais on discutera après. On en arrive à se dire, mais est-ce qu'on ne doit pas cotiser le travail des robots ? Vous voyez, on arrive là, parce qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on fait ? Alors, on dit, en Suisse, c'est simple, il y a la TVA. Donc, chaque fois qu'on peut, on la fait passer tout le monde à la caisse. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ce n'est pas mieux ? Bon, voilà. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser dans le premier pilier. Donc, problématique essentiellement démographique. Et puis, dans le deuxième pilier, c'est plus la problématique du rendement du capital, puisqu'on est dans un système de capitalisation. Parce que c'est le troisième cotisant. Voilà. Alors, soit s'il n'y a plus de troisième cotisant, eh bien, soit de nouveau. Alors là, on revient au même problème. On cotise plus ou on baisse les prestations. Donc, il faut effectivement prendre des mesures. Alors, il n'y a pas forcément une urgence absolue, mais en Suisse, c'est pas mal si on anticipe. Et vous savez que le processus législatif prend du temps. On va essayer de trouver un consensus. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, oui, il y a besoin de réforme. Mais réfléchissons avant, disons, de se précipiter, la tête baissée sur quelque chose qui ne passera pas.
Voilà. Donc je vais peut-être revenir de manière un peu plus globale sur le système des trois piliers. Sur le principe, dans sa conception, ce système, je suis persuadée, je suis convaincue que ce système est très bien conçu. Ce système a de multiples facettes. Souvent, il est présenté, ou certains aspects sont présentés de manière très caricaturale dans la presse ou dans certains débats. Et je pense que c'est important de bien garder cet équilibre de base. Après, le besoin de réforme, oui, mais le besoin de réforme aussi par rapport à l'évolution de nos sociétés. C'est génial, on devient plus âgé, plus en forme, donc super. Mais on ne veut pas travailler plus longtemps, donc... Point d'interrogation. Est-ce que l'emploi d'aujourd'hui, ça sera les emplois de demain? On dit qu'un jeune qui naît aujourd'hui va changer 5 fois d'emploi. Au niveau sociétal, si on regarde la manière dont le système a été conçu, par exemple le droit de la famille, aujourd'hui, vous connaissez les familles, une famille qui vit ensemble de, je dirais, 20 ans jusqu'à 90 ans, et que tout se passe normalement, ça devient plutôt l'exception, mais on passe plutôt vers un système de famille composée, recomposée, re-recomposée. Notre vie commune dure beaucoup plus longtemps, on évolue. Donc je pense que moi, ce qui me manque fondamentalement, on parle beaucoup de paramètres techniques, on parle beaucoup de rendement, ce qui me manque fondamentalement dans les discussions aujourd'hui, c'est toute l'évolution sociétale et toute l'individualisation aussi par rapport au droit du travail, où on va... quand même vers une, on le voit, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans certains pays, ça va venir chez nous aussi, on le ressent déjà aujourd'hui, vers cette gig économie ou travail à la tâche. Donc on va avoir certainement beaucoup plus d'indépendants qui aujourd'hui ont une pauvreté en termes d'obligations au niveau du système social. Donc je pense qu'au lieu de s'arrêter à des paramètres purement techniques, de s'exciter uniquement sur des taux, sur des réductions de taux de conversion ou qui sont des sujets très 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 importants. Je ne veux pas diminuer l'importance de ce sujet. Je pense que ça serait important, et ça devient urgent aussi par rapport aux générations qui vont nous suivre, d'avoir une vision un petit peu plus globale de l'évolution de la société pour voir vers quoi on doit essayer de tendre, ou en tout cas débuter le débat à ce sujet.
Merci.
Oui, je rejoins mes collègues. Il n'y a pas un danger immédiat pour notre système de prévoyance. Je suis d'accord, le système de trois piliers, c'est très bien. C'est vrai, il y a un problème de démographie, mais il n'y a pas de danger immédiat. Par contre, il y a un besoin de réforme. Pourquoi je dis ça? Il y a des comparaisons internationales des systèmes de prévoyance. Probablement le plus connu, c'est Mercer. Il y a la dernière étude qui est sortie il y a quelques semaines en arrière. La Suisse, actuellement... occupe la deuxième place dans ce classement international. Et chaque année, on descend un petit peu dans le classement. Chaque année, on perd une, deux places. Et ce qui est intéressant, c'est que le classement, il se dégrade, mais la note en soi-même, elle ne bouge pas. Donc, c'est les autres pays, ils font des réformes, ils améliorent leur système, et nous, on passe du temps, on dort, on ne fait pas les réformes, que plus le temps passe, plus elles seront nécessaires. Et c'est vrai, il y a plusieurs composants dans ces indices. Et ce qu'on voit, la perte de vitesse en Suisse, c'est au niveau de l'adéquation du système. Donc, un système qui n'est plus adéquat, n'est pas adéquat à la société qui change, au rôle de femme dans la société qui a changé, aux indépendants, au temps partiel, et ainsi de suite. Et c'est vrai, il ne faut pas juste regarder les taux techniques. On continue à discuter du taux de conversion qui baisse, qui doit baisser ou ne doit pas baisser. Je ne pense pas que c'est ça. On parle beaucoup du tiers cotisant. J'ai l'impression que le tiers cotisant est toujours là. Si on regarde les caisses de pension sur les dernières 10 années, les indices, il y a des performances qui vont de 4,5% à 7%. Donc le rendement des marchés, il est là. Il n'est pas versé aux assurés. Il y a un besoin donc de réforme et il ne faut pas se focaliser juste sur des taux techniques ou sur le troisième cotisant. Il faut vraiment regarder cette société qui a changé et trouver un système qui soit en adéquation avec la société.
Très bien, merci. Anne-Sylvie Dupont, je vous ai coupé tout à l'heure, donc je vous redonne la parole pour pouvoir développer votre point de vue par rapport aux besoins de réforme, puisque maintenant on essaie de regarder... de se projeter un peu vers l'avant, vers ce qu'il faudrait faire, à votre avis.
Alors, je pense que tout a été dit par ma collègue. Je pense que je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on crée la prévoyance des gens qui seront à la retraite dans 25 ans. Ça ne me sert à rien, en fait, qu'on réforme la prévoyance pour les gens qui sont déjà à la retraite ou pour les gens qui prennent leur retraite cette année, parce que finalement, dans 2 ans, on devra de nouveau réformer, puis réformer, puis réformer. Et si on arrivait un tout petit peu à se projeter en avant et puis essayer de se dire, OK, c'est qui les gens qui seront à la retraite dans 25 ans ? Ce seront des gens qui auront vécu comment ? Qui auront quoi comme besoin ? Qui auront quoi comme aspiration ? Et puis on réfléchit à tout ça et on se dit ce sont des gens qui auront peut-être divorcé 2 fois, eu des familles recomposées, ce seront peut-être des gens qui se seront occupés d'un parent âgé pendant 10 ans, ce seront peut-être des gens qui n'auront pas envie de vivre dans un IMS mais qui n'auront pas non plus envie d'avoir une maison. Voilà, qu'on réfléchisse à ça au fond. Et si on regarde maintenant ce qui se fait avec AVS 21 ou aussi avec le compromis en matière de LPP, c'est des réformes ou nettes. On fait un petit peu de cosmétique, on se dit voilà, on va faire un tout petit machin ici, puis on va faire un tout petit truc là. Alors c'est très suisse, c'est la méthode helvétique, hein, la méthode des petits pas, parce qu'on sait que quand on fait des réformes d'envergure, ça passe pas. On l'a vu avec prévoyance 2020. Mais moi je pense que ça ne doit pas nous dispenser, on peut faire les deux, hein. On peut tout à fait avancer sur AVS 21 et puis réformer ce qui doit l'être pas par pas, mais ça ne doit pas nous dispenser d'avoir un projet de société qui soit plus global et qui nous mène au fond vers l'avenir. On réforme toujours le droit de la prévoyance 10 ans après les besoins. Il faudrait une fois être 10 ans avant, ce serait pas mal.
Guy Longchamp.
Bon, je rejoins le constat qu'il faut mettre cette adéquation des assurances sociales et le changement de société. Maintenant, j'ai quand même une petite nuance. C'est que moi, je suis bien d'accord qu'on entre dans cette grande thématique-là. Mais alors, il ne faut pas qu'on vienne avec des a priori dès le départ où on dit qu'il ne faut surtout pas que les gens aient moins qu'avant. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même compliqué de dire « je veux moins travailler ». Et puis, je vais avoir les mêmes prestations que mes parents en 2019, d'accord. Alors, si ça, on est d'accord sur ce principe, on commence à discuter, n'est-ce pas? Si c'est avoir les mêmes possibilités financières qu'ont eu les personnes qui ont actuellement entre 60 et 70 ans, n'est-ce pas? C'est des gens, en grande partie, qui n'ont jamais connu le chômage, qui n'ont connu qu'une augmentation des salaires, qui n'ont, franchement, tant mieux pour eux. On leur en veut pas, n'est-ce pas? On est en 2019, il faudrait changer, disons, toutes les règles. Mais très concrètement, voyez, moi, si on a quelqu'un de 25 ans en face de moi, puis que c'est peut-être que ce sera l'ubérisation du droit du travail, on peut le regretter ou pas. Mais c'est clair que l'indépendant aujourd'hui, il ne faut pas qu'on vienne ensuite nous dire « alors, il ne faut pas changer le droit du travail ». Bien sûr que si l'employeur ne peut pas licencier plus facilement, etc., ça, ce n'est pas simplement le droit civil, c'est des tas de choses. Et la LPP a été d'abord construite, si on vient dans le deuxième pilier, par les employeurs de concert avec les employés. Ça a commencé notamment dans les grandes entreprises. Alors, c'est ce côté patronat, paternaliste, on ne veut pas. Donc, en 85, on a dit, on fait une loi. Le message du Conseil fédéral, il est de 76. Il a fallu 9 ans pour que la loi entre en vigueur avec des dispositions transitoires. Donc, si on commence maintenant, je veux bien qu'on est en 2019, en 2030, il y aura un changement important dans le domaine de la prévoyance. Là, je rejoins Anne-Sylvie quand elle dit on peut faire les choses en parallèle. N'est-ce pas ? On peut réfléchir à long terme, parce que dans le deuxième pilier, tout devrait se réfléchir à long terme. Donc, c'est 40 ans, en principe, aujourd'hui. On dit c'est 40 ans d'activité. Mais si l'étudiant, aujourd'hui, commence à travailler à 28 ans, en faisant des petits jobs où il ne gagne même pas le minimum, ou 25 ou 26 000 francs, vous voyez, bon, hors de grandeur. Et puis qui veut prendre sa retraite comme son papa ou bien sa maman à 65 ans, en ayant les mêmes prestations, je vous dis tout de suite, moi j'ai fait droit parce que j'aime pas trop les chiffres, mais je peux déjà vous dire, c'est sûr que ça va pas aller, n'est-ce pas? Hein? Puis il faut pas venir nous dire, ben, y a qu'à payer, y a qu'à y chercher des impôts, y a qu'à, mais oui, y a qu'à, d'accord? Ça va pas aller, n'est-ce pas? Donc il faut quand même réfléchir un petit peu. Donc changement de société, je veux bien, mais changement d'attente aussi. Et ça, je mets ma main à couper aujourd'hui, politiquement, vous oubliez. On veut la même chose qu'aujourd'hui, mais en étant beaucoup plus tranquille. Eh ben, il n'y a pas de souci, ce ne sera pas possible. Ça, c'est, je pense que, voilà, ça, c'est mon sentiment.
Je crois qu'on vous a bien compris, Guy Longchamp. Isabelle Abschwand, vous voulez...
J'aimerais bien revenir à, encore une fois, une vision peut-être un petit peu plus globale, parce qu'on a finalement deux catégories. Si je prends le deuxième pilier, hein, si vous me permettez, puisque au niveau de l'AVS, tout le monde paye de manière indéfinie, qu'on gagne 5, 10, 1 million, 10 millions, plus. Mais je dirais que dans le cadre du deuxième pilier, si vous regardez le paysage suisse aujourd'hui, en fait, on a déjà... on parle de taux de conversion, hein, donc c'est le taux qui est utilisé pour convertir la rente. Donc si vous avez 100 000 francs d'avoir de vieillesse, que vous avez un taux de conversion de 6%, ça veut dire que vous aurez une rente de 6 000 francs. Si vous regardez aujourd'hui la majorité des caisses de pension suisses qui offrent un système dit enveloppant, donc qui va au-delà de ce qui a été imaginé par le législateur, elles ont déjà toutes fait un travail conséquent pour s'adapter à l'état actuel, en fait, de la situation. Aussi par rapport à la longévité, il y a déjà énormément de travail qui a été fait. Là où il y a du travail à faire en termes techniques, c'est pour le système légal. Maintenant, le système légal, il s'arrête à des salaires, j'arrondis, à de 85 000 francs, je peux dire ça. Vous êtes d'accord, 85 000 francs. Maintenant, par rapport à ce système, le but, c'était d'avoir un taux de remplacement de 60%. Dans ce taux de remplacement de 60%, l'AVS joue un rôle, le deuxième pilier joue un rôle. Alors, effectivement, le rôle que doit jouer le deuxième pilier, en principe, on devrait arriver à 34% de taux de remplacement pour le deuxième pilier. Il y a un aspect qui est souvent, alors c'est peut-être un peu provocateur ce que je vais dire là, mais il y a un aspect qui est souvent oublié, puis on me dit, mais quand tu en parles, c'est du passé, donc finalement, tout ce qui est passé, c'est loin des yeux, loin du cœur. On se concentre sur le présent et le futur. C'est que si on regarde ce qui s'est passé ces 15 dernières années, finalement, on n'a pas eu beaucoup d'augmentation de salaire, mais l'épargne qui était sur nos comptes de prévoyance a quand même été créditée d'intérêts qui étaient souvent plus intéressants, finalement, que nos augmentations de salaire. Donc, on a eu une augmentation de l'assiette de calcul des rentes qui était plus importante que, finalement, notre augmentation... Nos augmentations de salaire, donc notre capacité de consommation a moins augmenté que les avoirs dans nos caisses de pension par rapport à cette capacité en fait de consommation. Ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent. Donc pour moi, c'est séparer finalement quels sont les besoins urgents, c'est dans le système légal, De tenir compte de la longévité, de tenir compte du fait que les jeunes financent probablement plus ce deuxième pilier que les personnes qui sont déjà là, qui sont déjà parties à la retraite, et puis le surobligatoire, parce que dans le surobligatoire, le travail a été fait, et là, ce que j'ai besoin dans le surobligatoire, c'est qu'on, et de manière générale, c'est qu'on flexibilise beaucoup plus la possibilité et l'adaptabilité par rapport à l'évolution sociale. Voilà.
Oui. Ouais, c'est probablement dans le minimum légal, c'est là qu'il y a les plus grands défis à venir. On a parlé d'un salaire de 85 000 francs, c'est vrai, mais il y a quand même une déduction, donc on ne paye pas sur les 85 000 francs, on paye sur moins, sur grosso modo 60 000. Donc déjà là, on a une grosse diminution. Il y a l'augmentation de l'espérance de vie qui n'a pas été reflété dans ce taux de conversion. Donc, quelque part, tout ça, il faut le financer d'une façon ou l'autre. Et donc, c'est vraiment sur la partie légale que jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de réforme qui a été faite, qu'il faudra faire les plus grands efforts.
Guy Longchamp, vous voulez intervenir?
Oui, peut-être juste un mot par rapport. Je pense que... Quelque chose qui peut être fait rapidement, c'est la question des personnes qui travaillent à temps partiel. Parce qu'aujourd'hui, en plus quand on dit ça politiquement, on est sûr d'être aimé parce que ça concerne beaucoup de femmes. Donc on est sûr, tout le monde dire super ta proposition. Et en plus, dans la vraie vie, c'est vrai que c'est les personnes qui très concrètement sont impactées. Un exemple, si vous travaillez 2 fois 50% et que vous gagnez 85 000, avec les déductions de coordination qu'a évoqué mon préopinant, ce n'est pas la même chose si vous gagnez 1 fois 90 000. D'accord ? Vous êtes bien mieux loti si vous gagnez 1 fois 90 000. Donc ça, c'est un problème. On pourrait aussi discuter de faire que cette déduction de coordination elle soit proportionnelle. Il y a des tas de possibilités pour améliorer la situation des personnes qui travaillent à temps partiel. Parce que ça, je pense qu'effectivement, ça risque d'être plus souvent le cas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne, elle sera à 50% assistante à l'université. J'espère qu'elle atteint au moins le minimum LPP, j'en sais rien, mais je pense quand même. Elle aura peut-être à côté un mandat qu'il faudra qualifier. C'est quoi ça, un mandat? Ce ne sera certainement pas un contrat de travail, parce que la personne qui lui confiera le travail ne voudra pas que ce soit un contrat de travail, et puis lui dira, ben voilà, tu as une enveloppe, tu as 15 000 francs forfaitaires pour faire tel ou tel truc. Tu as 20 000 francs pour faire telle ou telle chose. Puis après, il n'a rien. Il frappe des durs. Il sera dans un bureau, comment on appelle en anglais, là, ces trucs de un working space, puis on partagera son bureau pour limiter au maximum les coûts. Et puis, il sera, pour cette période-là, ben, il aura son activité à temps partiel, plus ce 15 000 francs qu'il touche, qu'il aura. Alors, on fait quoi avec ça? C'est soumis aux cotisations sociales? Comment est-ce qu'on va qualifier ce montant-là? Ça, j'aimerais bien, puisque je pense, et ça, je rejoins les personnes ici, ça risque bien d'arriver. C'est ça, ce à quoi on va attendre. Là, alors, si ce n'est pas au deuxième pilier, et à l'inverse, on fait quoi?
Je crois que vous avez l'Amchan.
Non, mais juste par rapport à ce qui est... J'aimerais revenir sur l'aspect obligatoire et surobligatoire. Donc, quand on parle de réforme, tout ce que vous lisez dans la presse aujourd'hui, ça concerne uniquement le système obligatoire. Encore une fois, vous disiez jusqu'à 185 000. La première partie est couverte par l'AVS. Alors oui, il y a besoin de réformes, il y a besoin d'élargir l'assiette, il y a besoin de diminuer le taux de conversion. On parle de taux technique, mais on reste à une vision très, très financière et actuarielle des choses. Mais je pense qu'il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas occulter, c'est que tout ce que vous dites aujourd'hui, on a une chance exceptionnelle en Suisse, c'est que la prévoyance professionnelle, elle est dans les mains du peuple. Donc c'est les employeurs et les assurés qui décident ensemble, en principe, de leur plan de prévoyance. Attendez. Qui décident ensemble de leur plan de prévoyance. Et puis, c'est le système légal paritaire. C'est ce qui est voulu par le législateur aussi. Donc, ce qu'on retrouve en pratique, en tout cas la fondation que je préside, nous avons décidé de ne plus offrir de minimum LPP parce qu'on pense que ce n'est pas viable sur le long terme. On l'explique aux employeurs. En principe, c'est bien perçu. En diminuant certains autres coûts, on peut financer une meilleure retraite. C'est que finalement, les caisses de pension, elles ont un minimum à respecter. L'employeur à un minimum à respecter, mais que généralement en Suisse, aujourd'hui, on a certainement plus de 50% de la population qui va déjà bien au-delà de ce minimum. Alors, l'employeur peut décider ou la caisse peut décider de ne pas avoir de déduction, de coordination. Justement, on peut faire déjà plein de choses avec la loi actuelle pour pallier à certains défauts. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand on présente les réformes de manière très caricaturale, c'est comme on le faisait à l'époque en 2002 sous Ruth Metzler, le pillage des rentes. Alors ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je pense que c'est important de bien placer le débat. Est-ce que vous voulez le mettre sur le côté obligatoire, si vous voulez le mettre de manière générale, l'évolution de la société? Et puis vous posez la question comment employeur à employé. Alors la prévoyance professionnelle, c'est un système paritaire. Vous devez avoir une représentation 50% employeur, 50% employé. C'est inscrit en noir sur blanc dans la loi. Et effectivement, lorsque vous rejoignez un employeur, souvent il a déjà sa prévoyance. Mais s'il a sa propre caisse de pension, il y a des élections qui sont faites, il y a une représentation au conseil de fondation qui est paritaire. S'il rejoint une fondation collective, en principe, il devrait y avoir une représentation paritaire, etc., qui est impliquée dans les modifications de plans de prévoyance. C'est le système qui est voulu aujourd'hui et je suis vraiment fan de ce système. Je suis fan du système de Miliz parce que je suis sûre aussi que c'est la raison pour laquelle ça marche aussi bien. Parce que le peuple a beaucoup de bon sens. Enfin, nous avons tous beaucoup de bon sens. Et puis, le fait de pouvoir discuter dans un conseil de fondation avec des personnes qui sont des représentants employés, des représentants employeurs, ça nous amène à des solutions viables sur le long terme. Ce qui me manque, par contre, c'est la flexibilité légale pour aller vers l'avant, d'être basé sur une société des années 50. Voilà.
Très bien. Merci, Isabelle Amschwand. On va peut-être passer maintenant aux questions du public. J'imagine qu'il va y en avoir beaucoup.
Alors juste avant de passer au public, peut-être profiter de l'arrivée parce qu'ils se sont excusés déjà en amont de deux représentants de la direction de prévoyance NE qui sont dans la salle. Alors peut-être qu'un de vous deux voudrait...
Bonsoir, Alain Kolonovitch, prévoyance Neuchâtel. Donc moi j'aurais deux points. Il y aurait déjà peut-être juste une remarque. Guido, tu as dit en entrée, tu as fait une comparaison. Puis on dit souvent que comparaison n'est pas raison. Juste, j'aimerais corriger un point. Effectivement, dans les classements, la Suisse perd un petit peu de sa superbe. Elle recule. Mais il y avait un point clé l'année passée quand on regardait les comparaisons. Les Pays-Bas nous sont passés devant. Et vous savez pourquoi ? Parce que les Pays-Bas, quand ils ont un degré de couverture en dessous de 100%, ils peuvent baisser les rentes des bénéficiaires de rentes en disant on est à 90%, on verse que 90%. Donc quand c'est une lecture financière et de flexibilité, je suis d'accord pour dire qu'ils sont passés devant nous. Si on fait une lecture sociale, moi je dirais qu'on est toujours largement devant eux parce qu'ici en Suisse, la rente est garantie. Donc ça, c'est juste un point de remarque pour faire toujours attention à ces classements. Le deuxième point, c'est un peu pour mettre en évidence, je rejoins Mme Schwanden, qu'on a un formidable système. Et puis ce tiers cotisant, hein, on en parle beaucoup, j'aimerais bien qu'on le regarde aussi en valeur absolue et puis pas en valeur relative exclusivement. On a dû baisser notre taux d'intérêt technique, hein, c'est ce rendement ou cet intérêt qu'on donne aux rentiers, et passer de 3,5 à 2,25. On entend tous le mouvement, donc il baisse, puis on focalise tous là-dessus. De 25% sur mon capital et 20 ans de ma retraite, c'est toujours un quart de prestations supplémentaires. Puis ce troisième cotisant, il m'a déjà aidé pendant les 40 ans où je cotise. Il a déjà fait de l'ordre d'un tiers. Donc le troisième cotisant fait toujours plus de la moitié de nos prestations. J'aimais mieux quand il faisait le deux tiers, mais quand il fait toujours la moitié, je suis toujours très intéressé. J'ai envie de dire par là que nous, c'est ce qu'on cherche, caisse de pension. Mais il faut qu'on essaye toujours de faire les meilleurs rendements, qu'on choisisse ce troisième cotisant. Et nous, notre regard, c'est plus sur ces intérêts négatifs, parce que finalement, si on n'arrive plus à dégager le rendement, c'est tellement un formidable contributeur, c'est là qu'il y aura des implications sur les rentes. Donc encore une fois, aussi à rejoindre vraiment qu'on a un formidable système qui mélange bien les différentes choses, hein, les avantages de l'un et de l'autre. Et c'est juste là une interrogation qu'on a par rapport à la réforme qui est prévue de la LPP. Vous avez parlé beaucoup, hein, de minimum LPP, puis de surobligatoire, et puis on a peine un peu à comprendre pourquoi tout à coup la réforme qu'on veut, c'est des mesures d'accompagnement qui, là, toucheraient tout le monde, alors qu'on n'est plus en train de travailler sur le minimum LPP. Donc là, c'est plus une interrogation de savoir quel est votre avis par rapport à ça. On a l'impression que tout à coup, on solidarise les mesures d'accompagnement, alors que nous, l'an dernier, finalement, on a dû faire les mesures d'accompagnement par nous-mêmes, et on aurait bien apprécié de pouvoir les solidariser aussi de ce côté-là.
Tu veux répondre ?
Juste par rapport à ces mesures d'accompagnement, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, c'est en fait la proposition de diminuer le taux de conversion de 6,8 à 6, avec une proposition de verser pour les personnes qui seraient concernées, donc encore le système légal minimum, pour toutes les personnes qui seraient concernées de passer de 6,8 à 6, d'avoir une rente complémentaire de 200 francs par mois. Et là, je vous rejoins.
Juste peut-être pour être tout à fait sûr, donc ça, c'est le projet,
le
compromis des partenaires, voilà, sociaux.
Hein, exactement. C'est et puis, effectivement, là, il y a un mélange de systèmes. La proposition, c'est de financer ces 200 francs par mois par une perception d'une contribution additionnelle auprès de tous les assurés jusqu'à un salaire de 850 000 francs, hein, jusqu'au maximum. Mais là aussi, je suis d'accord avec vous parce que j'en reviens à ce que je disais avant. Si je regarde certaines caisses de prévoyance, aussi des caisses de prévoyance qui assurent du minimum LPP, des caisses de prévoyance de l'industrie, je peux prendre d'autres caisses comme la FIP ou la CIEPP, hein, qui sont des grandes caisses romandes qui assurent en fait beaucoup de petites micro-sociétés qui sont proches du minimum LPP, voire minimum LPP. Elles ont donné des taux d'intérêt très intéressants ces dernières années, de 2, 2,5, voire des fois même plus. Certains en font même la publicité. Donc, en fait, on finance, ces 200 francs sont déjà financés depuis très longtemps. Donc, on est en train de mélanger effectivement des systèmes. Et là, cette vision très... global, on me dira oui, c'est un compromis additionnel, oui, mais c'est un impôt additionnel. Voilà. Où je vous rejoins complètement, je pense que ce n'est pas la solution à adopter parce que finalement, on va commencer à tout mélanger les systèmes, on va casser l'équilibre qui a été mis en place de manière très subtile.
Est-ce que d'autres intervenants.
Oui, disons que c'est vrai que c'est, on va dire, philosophiquement, c'est vrai que ce n'est pas très propre parce qu'on introduit la répartition dans un système de. Dans la, oui, de la répartition de système qui est en capitalisation avec cette forte connotation de solidarité. Ça sent évidemment très fortement le compromis. Enfin, j'attends. C'est un accord qui a été trouvé entre l'Union patronale suisse et puis Travail suisse. Je vous laisse imaginer ce qu'ils ont dû. Disons, tripatouiller pour arriver à trouver à cet accord. Ce n'est pas évidemment propre intellectuellement. Après, voilà, c'est vrai que on dit il faut la flexibilisation, oui, pour les personnes qui gagnent 150 000 francs et plus, il y a de toute façon tout qui est possible, n'est-ce pas ? Donc maintenant, la question, c'est de savoir si ce deuxième pilier pour des gens qui ont des difficultés ou qui sont dans la tranche moyenne supérieure, donc jusqu'à 85 000 francs, est-ce qu'il faut faire quelque chose dans ce système-là ? Alors, je pense que oui. Parce que c'est précisément celles qui ont le moins de souplesse, parce que les employeurs, oui, que tu payes des gens 50 000 ou 60 000 francs, c'est rarement une banque. Oui, donc c'est plutôt des petites gens. Et là, l'employeur, ce qu'il veut, c'est payer le moins possible, sinon on délocalise en Tchéquie. Moi, je ne fais pas de la politique, mais c'est quand même le constat dans la vraie vie. Ce n'est pas ces employeurs-là qui vont vouloir trouver une solution idéale pour leurs employés. Ceux-là, ils veulent le minimum LPV pour que ça coûte le moins cher. Donc, dans ce sens-là, il faut un tout petit peu les contraindre à faire un petit effort pour les employer. Donc, dans ce sens-là, ça me choque moyennement, même si je n'aime pas non plus ce montant qui sera versé, surtout que ce n'est pas limité dans le temps. Enfin, bon, bref, voilà. Mais voilà un petit peu mon sentiment par rapport à ça. Je pense que oui, il faut de la flexibilisation. Mais alors, si on revient quand même un tout petit peu plus par rapport à cette largeur ou de spectre qu'il faudrait prendre, si les gens... Il y en a de moins en moins qui gagnent 150 ou 200 000 francs. Il faudra quand même bien trouver quelqu'un ou trouver une solution pour qu'ils touchent effectivement des rentes puis qu'ils les financent, même s'ils gagnent que 50 000 francs plus un montant qui est versé puis qu'on ne sait pas comment encore le qualifier. Pour moi, c'est ça. Si on veut parler de cette problématique rente ou avec l'aspect sociétal, on peut appeler ça l'ubérisation du droit du travail. C'est l'indépendant ou pas, c'est ça.
Je crois qu'on vous a bien compris. Yvan Guidotti.
Oui, je me permets juste de revenir sur la discussion sur le classement international. Je ne veux pas être mal compris. Moi, je ne voulais pas dire avec ça qu'on n'a pas un bon système de prévoyance. Au contraire, je crois qu'on a un bon système de prévoyance. C'est vrai, quand on a des classements comme ça, il faut regarder plus dans les détails. Moi, je suis le premier à avoir des réserves sur certains indicateurs qu'ils utilisent. Par contre, beaucoup de ces systèmes de prévoyance, ils sont soumis aux mêmes défis, que ce soit la longévité, le changement de la société, tout ça. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a des autres pays qui font des réformes, alors que nous, on a la peine à en faire. C'était juste ça que je voulais dire. Je ne voulais pas du tout dire qu'on a un système de prévoyance qui est en train de perdre, d'être moins attractif. Pas du tout.
Peut-être juste pour tendre la perche à ma collègue, je pense qu'un des critères dans cette comparaison internationale, c'est l'âge de la retraite. Alors qu'on était peut-être en avance en 1948, on a pris du retard. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important aussi, parce que c'est un sujet au niveau de l'AVS, de se prononcer sur cet aspect d'âge de référence ou âge de retraite ou jusqu'à quand faire quoi pour faire juste.
Alors, puisque vous m'interpellez, je prends le micro, mais je crois qu'il y avait des questions dans le public. Je pense que c'est une question qui va revenir. Je pense que on ne devrait pas, de nouveau, le débat maintenant a porté plutôt sur des aspects de détail, de choses qu'on peut faire maintenant, assez rapidement peut-être, sur la législation qui existe aujourd'hui. Et puis, dans ce contexte-là, il y a évidemment le relèvement de l'âge de référence avec, ça c'est le projet AVS 21, donc placer tout le monde sur un plan d'égalité avec un âge de la retraite à 65 ans. Alors, c'est effectivement une mesure qui est envisagée. Et de nouveau, moi, je vais même encore plus loin en me disant, dans 30 ans, les gens qui prendront leur retraite dans 30 ans, qu'est-ce qu'ils voudront? Qu'est-ce qu'ils pourront? Est-ce que ce ne sera pas des gens, finalement, qui pourront peut-être, pourquoi pas, travailler jusqu'à 67 ou peut-être voudront, ou 68, 69, 70, 75, je ne sais pas. Et au fond, ce qui est assez dérangeant, c'est de se dire finalement qu'on n'a pas de possibilité ou très peu de possibilité de flexibiliser ce départ. Et pourquoi au fond est-ce qu'on... Et ça fait partie de ces réflexions plus générales qu'on devrait avoir. C'est qu'une personne, deux personnes de 65 ans, je fais volontairement pas de distinction selon le sexe parce que mon rêve à moi, c'est une prévoyance professionnelle, donc prévoyance piliers 1 et 2, qui soient totalement détachés du sexe, du genre de la personne. Je pense qu'on aura vraiment progressé quand on aboutira à une société où le genre n'est plus un critère de distinction pour quoi que ce soit, aussi bien dans la prévoyance que dans tous les autres domaines. Donc ça, c'est mon credo. À partir de là, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à 65 ans dans le même état que d'autres. Homme ou femme, peu importe. Je pense que moi, je me permets de prendre mon exemple personnel, oui, je suis une femme, oui, je travaille à 100%, oui, j'élève deux enfants. Vous dire que ma vie est compliquée, honnêtement, je ne serais pas très crédible. Mes enfants sont adorables. Mon activité professionnelle est tout à fait satisfaisante et peu fatigante. Je n'ai pas de problème à m'imaginer travailler même jusqu'à 70 ans, aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, on se revoit. J'ai été très malade, j'ai dû m'occuper de ma maman qui était mourante et j'ai dû m'en occuper pendant 5 ans, je ne sais pas. J'ai un enfant qui est devenu handicapé. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ces critères-là qui devraient dire à quel moment vous avez le droit de vous reposer, finalement? Et pas seulement, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et que vous soyez homme ou que vous soyez femme, je veux dire, moi, quand je compare ma vie avec celle de compagnons masculins, je ne m'estime pas spécialement avoir une vie plus dure qu'eux et avoir le droit de quoi que ce soit. Et finalement, ça, c'est mon credo aussi, c'est que cet âge, il devrait... Alors, oui, qu'on garde un âge de référence général, oui, qu'on ait un ordre de grandeur, on va dire. Mais à partir de là, moi, m'imaginer que quelqu'un ait le droit de prendre une retraite plus tôt parce que, par exemple, il a eu un enfant handicapé dont il s'est occupé pendant 20 ans, je ne trouve pas que ce soit particulièrement choquant comme idée. De nouveau, dans cette idée de réflexion générale sur l'avenir, qu'est-ce qu'on veut finalement pour les gens qui prendront leur retraite dans 30 ans? Et je pense que dans ce sens-là, moi je suis alors clairement pour un âge de référence qui soit le même pour tout le monde, mais avec des possibilités de flexibilisation beaucoup plus grandes que ce qu'on a maintenant et qui n'inclut pas seulement des éléments de carrière professionnelle, mais de vie en général.
Alors je souscris à 300% à chaque mot que vous avez dit. Et je pense qu'effectivement, la retraite, c'est pas c'est un concept, mais c'est pas un âge. Il n'y a pas le avant et le après. J'ai entendu quelque chose d'extrêmement choquant l'autre jour en me disant, mais si tu as 64 ans et 8 mois, quand tu vas à l'hôpital, tu es... tout à fait avec tout le monde. Si tu as 65 ans et 2 mois, tu passes directement en gériatrie. Et je me suis dit, si c'est vraiment ça, c'est choquant. C'est choquant parce que je pense qu'aujourd'hui, la valeur d'une personne, l'envie de vouloir travailler plus longtemps, c'est un concept qui devient de plus en plus flexible. Donc je souscris complètement à ce que vous dites. Et je pense que, alors je reviens peut-être à mes premiers amours qui étaient la fiscalité, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour inciter finalement et flexibiliser tout cet avenir en travaillant avec la fiscalité, dans le sens où vous pouvez encourager les personnes à partir d'un certain âge en disant ben, je renonce actuellement peut-être à ma retraite, je la diffère, mais aujourd'hui c'est pas possible de différer jusqu'à 70 ans si l'employeur le veut, mais dans un système légal c'est pas possible de différer la retraite. Alors qu'est-ce que je veux continuer à travailler si je reçois une rente plus après encore un salaire? Enfin, je suis discriminée.
Donc, parce que je dois payer plus d'impôts.
Voilà, j'ai aucun intérêt à le faire. Donc, je pense qu'il y a des mesures incitatives. Après, la possibilité, oui, j'ai envie de continuer à travailler à temps partiel. J'ai pas besoin de ma rente complète. Peut-être que je peux la différer, ou je peux prendre une rente temporaire, ou différer pour après, quand j'aurai, 85, 90 ans, où j'aurai besoin d'un peu plus d'aide, où j'aurai besoin éventuellement d'aller dans une maison spécialisée qui va me coûter un petit peu plus cher, ou peut-être pas, ou avoir quelqu'un à domicile. Aujourd'hui, on n'a aucune flexibilité, on ne donne pas la chance aux retraités de pouvoir gérer leur rente de retraite de manière à pouvoir pérenniser sur le long terme. Les enfants ont l'obligation de s'occuper pour une partie de leurs parents, mais on ne leur donne pas non plus la possibilité. Si vous faites un don à une association caritative, ce don, vous pouvez le déduire aux impôts. Mais si vous faites un don dans la retraite de vos parents, par exemple, si vous dites, vous êtes retraité d'un deuxième pilier, mais j'ai envie d'améliorer ta rente, donc voilà, aujourd'hui j'ai l'argent, je veux te payer, bah, vous ne pouvez pas le déduire, et ce n'est pas possible. Donc je me dis, on pense vraiment, faut peut-être qu'on essaye de commencer à penser un petit peu out of the box dans notre système, et ça rejoint peut-être à la discussion de l'évolution sociétale. C'est ce qui me manque beaucoup aujourd'hui. Je trouve qu'on a très peu d'imagination, mais je pense que ça repose aussi beaucoup sur la formation. Il faut absolument qu'on commence à former la population, mais aussi nos politiciens par rapport au système de retraite dès le plus jeune âge, parce que ça touche l'argent, l'incapacité de travail et la mort. Des sujets tabous, on n'aime pas en parler, mais il faut en parler. C'est essentiel.
Anne-Sylvie Dupont.
Non, mais peut-être pour compléter ce que vous dites, il faudrait aussi que les pouvoirs publics soient cohérents. Actuellement, on assiste à des politiques publiques, en tout cas en Suisse romande, qui vont très clairement pour un maintien des personnes du quatrième âge à domicile et pour éviter le plus possible un placement en établissement médico-social. Donc c'est un choix de politique publique qui est fait. Alors effectivement, on a, Dieu merci, une autre assurance qui est l'assurance maladie qui va payer pour une partie des soins à domicile. Mais dans un système de soins à domicile, très souvent, les enfants, voire aujourd'hui les petits-enfants, sont impliqués dans le maintien à domicile. Ça peut être des proches aussi, ça peut être un autre membre de la famille ou un ami qui va être impliqué dans ce maintien à domicile. Et en fait, il n'y a aucun moyen de récompenser cette personne. Dans certains cas, on vient nous dire, mais oui, il y a la bonification pour tâches d'assistance dans l'AVS, ce qui est donc un gag total parce qu'il faut que vous assistiez votre proche pendant 2 ans pour avoir une augmentation de rente de 30 francs. Donc c'est un gag. C'est absolument pas utile. Puis surtout, si vous avez diminué votre taux d'activité pour vous occuper du proche, c'est pas ça qui va compenser votre manque à gagner. Donc là, on n'est pas logique. On ne peut pas d'un côté dire oui, il faut tout faire pour maintenir les gens chez eux, et puis en même temps financer qu'une partie des soins, parce que là, la malle ne finance pas tout, et puis après venir dire oui, mais alors finalement, s'il y a des gens qui s'occupent de... Non, mais il n'y a pas besoin de les récompenser, et puis ils n'ont qu'à bosser aussi tard que les autres, puis il n'y a pas de raison de leur... Enfin, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas logique, et il faudrait ici être un peu cohérent.
Sur le constat, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut quand même, pour avoir la vision globale, c'est tout un changement de réflexion qu'il faut avoir. Parce que par définition, en Suisse, on pense de manière cloisonnée, puisqu'il y a 10 branches d'assurance sociale. Donc, c'est évident que la caisse de pension, elle va se réjouir si c'est plutôt l'AI ou les prestations complémentaires ou l'assurance accident qui va payer. Donc, oui, et respectivement, le fisc, est-ce que vous pensez vraiment qu'il pense dans les mêmes termes que la caisse de pension ? Souvent, il pense exactement à l'inverse. Voyez, donc, moi, je veux bien ces discussions. Je pense qu'elles sont intéressantes, elles sont importantes. Mais actuellement, les enjeux, ils sont complètement contradictoires et ils vont à l'opposé, n'est-ce pas ? La caisse de pension... une caisse pension 1E, vous voyez, qui est hors sol, elle n'en a rien à cirer, pour parler français, des personnes qui sont dans le minimum LPP puis qui gagnent 50 000 francs. Il faut être clair et net, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes intérêts, ce n'est pas les mêmes problèmes. Et alors, il faut une fois se mettre d'accord, mais c'est là où ce sera compliqué, c'est qu'il faudrait dire, alors on a un système de sécurité sociale complet, global, avec une vision globale. Oui, bien sûr que ce serait plus simple. Mais alors... moi, je pense que je serais mort, même si j'ai une espérance de vie qui dépasse celle que l'actuaire a calculée. Donc, je mourrai à 84 ans ou à 87 ans, mais ce ne sera pas fait. Je mets ma main à couper. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y tendre, n'est-ce pas ? Hein ? C'est peut-être très intéressant et c'est intelligent, mais on n'est pas du tout parti comme ça en Suisse.
Monsieur Longchamp, on va passer la parole de nouveau du côté du public. Monsieur.
Oui, bonsoir. Il y a énormément de choses qui ont été dites, vraiment énormément, et ça m'incite à avoir beaucoup de réflexions en fait, par rapport à ça. Il y a une chose qui a été dite, c'est on a gardé le modèle de société des années 50, on a aussi gardé une chose en tête, c'est une croissance exponentielle infinie. Hein, je veux dire, quand les caisses de pension sont capables de sortir vous avez dit quoi, 6-7%, on a, alors ok, peut-être un peu moins, admettons, on n'a jamais réussi à découpler la croissance économique de la croissance des besoins énergétiques. Donc, est-ce qu'à 25-30 ans, on arrive à avoir, parce qu'il y a de plus en plus de pression de la rue, hein, arrêter de financer les grandes compagnies pétrolières, et pourtant, c'est celles qui font du rendement. Donc, on a une énorme contradiction. Donc, c'est bien joli de vouloir se mettre... bon, on vise un futur dans 30 ans, le tiers payant ou le tiers cotisant, c'est les marchés financiers. Et donc, ça veut dire que quelque part, on doit aller chercher cet argent quelque part, générer cette croissance. Comment on peut le faire ? Et quant à la question du cloisonnement, oui, on pense de manière hyper cloisonnée. Pourtant, il y a des idées qui émergent. Hein. Alors, apparemment, vous avez l'air de bien apprécier le cloisonnement, finalement. Premier pilier, deuxième pilier... il y avait des idées récemment de générer une microtaxe sur toutes les transactions électroniques. À ce moment-là, on peut peut-être se séparer alors de la fiscalité. On peut se séparer de, éventuellement, pourquoi pas, de la question des assurances maladie. Parce que quand on dit, alors l'AVS, il y a de plus en plus de personnes âgées qui touchent l'AVS et aussi de moins en moins de personnes actives. Puis qu'en parallèle de ça, on dit bon ben on va faire en sorte que la malle prenne en charge une partie des soins aux personnes âgées. Ben, on fait jamais que demander aux personnes actives de cotiser aussi plus pour les personnes âgées qui n'ont pas cotisé. Puis finalement, alors puisque je parlais d'énergie, puis que c'est un peu mon dada, quand on dit oui, alors on aimerait les mêmes prestations quand on sera à la retraite que les personnes qui y sont maintenant. Souvent, on entend oui, mais on a travaillé pour ça. Si on veut être hyper cru en termes thermodynamiques, il y a beaucoup plus de pétrole qui a travaillé pendant cette période-là que n'importe qui en termes humains. Et c'est du pétrole que nous, on ne devrait pas pouvoir toucher. Parce que c'est des réserves de carbone qui devraient rester sous terre et ne pas aller dans l'atmosphère.
Merci pour cette intervention. Je vais passer la parole à M. Guidotti. Je pense que c'est surtout ces questions de rendement. Est-ce que pour les 25-30 prochaines années, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir continuer à générer les rendements actuels ou est-ce qu'il va y avoir effectivement un problème par rapport à la croissance qui pourrait ne pas se poursuivre, si j'ai bien compris votre question.
Ouais, bon, des prévisions à 25 ans, je ne suis pas vraiment à l'aise en faire. J'espère qu'il y aura toujours cette croissance parce que au final, ça va être bien pour la population aussi. C'est clair, ça va poser des grosses questions au niveau environnemental. Si j'ai bien compris, c'est une question par rapport aux investissements du point de vue environnemental. Vous dites que c'est le pétrole qui va générer la performance. Il y a une grosse tendance de la part des caisses de pension et de tous les investisseurs en général, c'est vers des investissements durables, ce qu'on appelle ESG, ISR, maintenant on commence à parler d'impact. En soi, c'est des investissements durables, que ce soit d'un point de vue de l'environnement, de la société, de la gouvernance. Et ce qu'on voit, c'est que ces investissements durables, ils ne vont pas nécessairement baisser la performance des caisses de pension, des investissements. Alors, dire que toute la performance vient du pétrole, ça peut-être c'était vrai par le passé, actuellement, les recherches, ce n'est pas ce qu'ils montrent. C'est vrai, il y a des caisses qui font beaucoup plus d'efforts pour aller vers ces investissements durables. Moi, j'ai une approche assez pragmatique, je dis que c'est pas la ça ne devrait pas être la première préoccupation des caisses de pension. S'ils peuvent le faire, très bien, mais la première chose à faire, c'est payer des rentes. Alors, une fois qu'ils ont fait les étapes de base, qu'ils ont une organisation saine, alors là, ils peuvent aller s'intéresser à ça. S'ils peuvent le faire, je dis encore, s'ils peuvent investir en aidant l'environnement, la société, je suis la première personne à être contente de ça. Mais donc il y a beaucoup de caisses qui ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Souvent, des fois, c'est de la communication, mais maintenant, tous les investissements des caisses sont plus ou moins responsables d'un point de vue environnemental. Il n'y a plus aucun gérant qui peut complètement mettre de côté ces éléments-là. Ils sont tous conscients que s'il y a un problème à niveau environnemental, un jour, ils vont payer ça. L'entreprise elle devrait payer ça, donc il y a tout le monde qui incorpore ça dans ces processus d'investissement. Donc je dirais que les actifs, les investissements des caisses de pension, ils sont de plus en plus verts, durables. Et je pense que c'est à la base c'est quelque chose de très bien. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question.
Isabelle Lamschwan.
Alors, fiscalité. Vous avez parlé d'une imposition à la source hein, des transactions. Effectivement, j'ai entendu cette proposition aussi. C'est aussi comme la proposition aujourd'hui, on se dit ben, peut-être qu'il y a une partie de la main-d'œuvre qui sera remplacée par des robots. Mais aujourd'hui, les robots, ils ne sont ni soumis au SECO, ni soumis aux charges sociales, ni soumis à rien du tout. Donc, il y aura une évolution par rapport à ça, oui ou non. Par rapport à cette de remplacer complètement le système actuel par une taxe à la transaction, peut-être que ça arrivera un jour, mais ça ressemble beaucoup à la TVA et c'est l'impôt le plus asocial qui existe. Point d'interrogation. Je pense que ça demande un tout petit peu plus de réflexe. Vous allez me dire, plus vous êtes riche, plus vous faites de transactions, plus vous, etc., etc. C'est comme la TVA, plus vous avez d'argent, plus vous consommez, etc., etc. Mais il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, vous allez acheter, je ne sais pas, un bouquin... que vous ayez gagné, que vous soyez milliardaire ou au minimum, vous payez la même TVA. C'est pour ça que pour moi, c'est un petit peu asocial. L'autre chose par rapport à la croissance, je pense que c'est nous qui allons l'influencer parce que la croissance, la consommation, la croissance est dictée par notre consommation. Donc aujourd'hui, on dit on ne va plus consommer des pampers super polluants. Il y a une société à Paris qui est en train de se lancer à fond dans des pampers recyclables, etc., etc. Puis je pense que un va diminuer, mais l'autre va augmenter. Donc je pense que c'est notre mode de consommation qui va influencer ça. Et puis après, ce que je pense, c'est que on va passer vers un système de shared economy de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qui me manque aussi aujourd'hui dans les réflexions. Par rapport à la chaire d'économie, peut-être que vous pensez aussi à ça, parce que c'est une économie un peu plus durable, au lieu de tout jeter et de racheter dans ce sens-là. C'est aussi le rôle que pourraient jouer les caisses de pension dans le futur, c'est de travailler avec les communautés qu'elles ont, de leur assurer des plus jeunes aux retraités. Je pense qu'ici, il y a encore... aujourd'hui, elles ont un rôle purement financier, payer des rentes, mais je pense qu'ici, elles pourraient jouer un rôle un peu plus... d'évoluer. Donc, je ne sais pas si ça complète un petit peu.
Guy Longchamp qui voudrait ajouter quelque chose.
Non, mais très rapidement, si vous voulez. Moi, ISR, ESG, c'est comme pas dire on veut privilégier les personnes qui travaillent à taux partiel. On est sûr qu'on nous aime. Donc, c'est vrai, il faut privilégier ça. Mais le problème, c'est qui fixe le critère. Et, ça, c'est bien joli. Alors, je vous donne un exemple et après j'arrête. Nous étions au Québec. Si vous avez le fleuve Saint-Laurent, et puis qu'une entreprise décide de faire de l'électricité en créant des barrages. Est-ce que de faire des barrages, c'est écologique? Alors, il y a la moitié de la salle qui va me dire « oui, c'est super », puis l'autre qui va me dire « non, parce que les saumons, ils ne peuvent pas remonter le Saint-Laurent ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, oui, moi, je n'ai pas de réponse. Mais laissez la souplesse aux caisses de pension. Et si un employeur, il va être dans une caisse qui est super ESG, eh bien, l'employeur, il ira. Et puis, si une caisse de pension qui dit « moi, je ne fais pas de l'ESG », puis en plus, j'ai un rendement qui est catastrophique, elle disparaîtra. Et puis, il y a peut-être des employés qui disent « moi, j'aimerais bien être dans la caisse XY, elle ne fait pas trop d'ESG, elle ne fait pas trop de pub, mais elle fait des bons rendements, puis elle me paye des rentes. » Et basta.
Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je crois.
C'est l'employeur qui a le choix, désolé, il y a le juriste à la table, qui a le choix, c'est l'employeur qui détermine ce qu'il fera, sa caisse de pension et sa stratégie et son modèle.
Je crois que monsieur a dit une chose qui me semble assez juste. Vous êtes en désaccord avec ce point de vue? C'est l'employeur qui décide.
Non.
Ah bon?
Mais non. Vous lisez l'article 51.3, puis 51.3 bis, c'est le PP, puis après, ben, vous verrez, ce n'est pas tout à fait ce que vous dites.
Il y a le côté juridique et le côté pratique.
Le soin est obligatoirement assuré par prévoyance.ne.
Elle a de la chance d'être assurée après ce point. Voilà, non, mais.
Puisque vous avez la parole, monsieur Longchamp, je suis quand même un peu surpris par vos déclarations. Quand vous dites que les gens qui ont entre 20 et 60 ans aujourd'hui, ils sont plus doux, ils aimeraient avoir une retraite plus longue. Les employés, les ouvriers que je connais sont dans des entreprises, y compris dans des assurances, dans des industries, ils travaillent très durement. J'aimerais. Bon, aujourd'hui, il y a plus de têtes grises que blondes, mais je dois leur connaître. Par les observations que je fais, je pense que vous ne sortez pas très souvent de votre cabinet ou de votre salle de cours. Ce qui m'a également surpris, c'est finalement, quand on discute d'un niveau, parce que c'était ça le début de votre intervention, un niveau de rente. Là, on parle d'une répartition de la richesse. Et ça, vous n'avez pas abordé du tout. Et je pense que c'est le problème fondamental, la répartition de la richesse en termes techniques, la répartition du produit national ou du produit intérieur. Et qu'est-ce qu'on observe depuis ce siècle? C'est une augmentation de la disparité entre les revenus. Et elle est encore accélérée maintenant par les intérêts négatifs. Ça touche beaucoup plus les revenus moyens et ça touche beaucoup des institutions de prévoyance. Ça, c'est un problème qu'on pourrait résoudre à court terme. Et je dois dire que je suis assez favorable à la proposition de M. Maillard en disant que les intérêts négatifs prélevés par la Banque nationale, là, ils sont ristournés ou ils ne sont pas imposés aux caisses de pension, puisque ça touche. Troisième cotisation. Et puis, quant au travail à temps partiel, vous avez pris des exemples extrêmes. Ceux qui travaillent en essayant de lancer des startups sont minoritaires. Par contre, dans la classe en Suisse, beaucoup de femmes travaillent à temps partiel. Pourquoi? Parce qu'elles s'occupent d'enfants. C'est ça la majorité. Alors on ne peut pas détruire cette réflexion sur le temps partiel en disant mais comment est-ce qu'on va qualifier quelqu'un qui accepte de conduire un taxi pour Uber? Ça c'est l'exception. Il ne faut pas se travailler sur les exceptions.
Je ne vais pas reprendre peut-être chaque point. Je réponds pas. Oui, je réponds. Oui, alors bon, je vous rejoins tout à fait sur la question que les caisses de pension devraient être. D'une manière ou d'une autre, exonérer ou disons, ne pas être taxé sur les intérêts négatifs, ça c'est évident, mais disons qu'il se trouve que ce n'est pas un chargé d'enseignement qui peut prendre la décision, donc ça c'est purement politique, effectivement. La question des taux partiels, je crois que je vous rejoins, c'est-à-dire que je n'ai rien dit d'autre qu'il faut faire en sorte que les personnes qui sont à taux partiel soient privilégiées. Ça veut dire que cette question d'éduction de coordination, madame, je vais demander exactement la même chose, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec le surobligatoire, on peut tout à fait dire qu'il n'y a pas de déduction de coordination, c'est-à-dire qu'on est assuré dès le premier franc gagné. Voilà, si l'employeur et l'employé sont mis d'accord, c'est parfait. Donc, il n'y a rien besoin de changer. Sous l'angle pratique, il faut juste convaincre les gens. Maintenant, je n'ai pas tout à fait compris votre allusion, la première, à ce que vous disiez sur la question des, disons, de la répartition. Enfin, je prends juste votre dernier point, puis après je reviens sur le premier point. Donc, c'est la question de la différenciation aujourd'hui entre riches et pauvres ou ce clivage qui s'accroît. Évidemment, alors moi, je suis le premier, je vous dis très honnêtement, j'arrive pas, moi, je ne suis pas pour qu'on fixe des limites de plafond de salaire. Mais je suis par contre toujours très surpris que des gens s'estiment mériter 2 millions de francs par année pour le travail qu'ils font. Vous voyez, j'aimerais bien qu'intellectuellement, ils se disent, je ne pense pas que je les mérite, parce que certes, je suis super intelligent, mais même si j'avais 1 million, je m'en sortirais. Donc, ça, je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis par contre pas sûr que ce soit le rôle de l'assurance sociale de répartir les richesses, vous voyez. Ça, c'est le rôle de l'impôt, d'abord. Et en Suisse, je pense qu'il y a un impôt fédéral direct, cantonal et communal, qui fonctionne bien. Et puis alors là, on peut prendre un ranking chez Mercer. Je pense qu'en Suisse, on n'est pas si mauvais, vous voyez, sous l'angle de la répartition. Et il y a par contre une chose qui fonctionne bien en Suisse, puis ça, on en parle rarement, c'est que dans l'assurance AVS, Mme Schoenen l'a évoqué, si vous gagnez 2 millions, vous cotisez sur 2 millions et vous toucherez 24 000. Ça, il faut quand même arrêter de dire qu'en Suisse, il n'y a que les riches qui profitent. Ce n'est pas vrai. Là, c'est précisément un élément où il y a une très forte connotation solidaire qui ne doit surtout pas être diminuée. Ça, je vous l'accorde.
Ouais, je vais juste revenir sur le taux d'intérêt négatif très rapidement. C'est probablement celui qui est plus concerné ici à la table. C'est pas le sujet de ce soir, discuter si le taux d'intérêt négatif c'est bien, c'est pas bien. On a des experts à la Banque nationale qui ont décidé que maintenant c'est nécessaire. Après, les caisses de pension, c'est un agent économique comme les autres, donc je vois pas pourquoi les caisses de pension devraient les exonérer. S'ils sont nécessaires, les taux négatifs, ils sont nécessaires pour l'économie en entier. Les caisses de pension font partie de cette économie, donc c'est juste qu'ils passent par là. Par contre, ce qu'on a vu ces dernières années, 4 années depuis qu'ils ont été introduits, c'est que c'est plutôt les banques qui décident à qui faire payer ces taux d'intérêt négatifs, à qui ne pas les faire payer. Et malheureusement, petite entre parenthèses, malheureusement, ces taux d'intérêt négatifs, qu'on les aime ou on ne les aime pas, ils vont encore rester un petit moment, j'ai l'impression. Et les banques, jusqu'à présent, ils ont plutôt préféré les taxer, les faire payer aux caisses de pension, aux institutionnels, plutôt qu'aux privés. Et ça, je pense que c'est là-dessus qu'il faudra agir, mais pas sur le taux d'intérêt négatif en tant que lui, juste pour les caisses de pension.
Mais typiquement, ça, c'est un élément qui est aussi toujours présenté de manière très placative. Hein. Taux négatif, pillage des caisses de pension, mais le taux négatif fait aussi en sorte qu'on ne va pas si mal que ça. Et puis, si vous regardez l'évaluation des biens, si on dit qu'on prend les bénéfices futurs, qui est une des méthodes d'évaluation, et puis qu'on capitalise avec un taux relativement bas, ça valorise relativement bien etc. Donc ça profite aussi indirectement. Donc je ne suis pas du tout une spécialiste de ce domaine, je ne vais pas m'en prononcer plus, mais encore une fois, je pense que quel que soit le sujet, c'est important de voir l'ensemble de la problématique plutôt que de se focaliser sur un point qui est relevé particulièrement dans les médias.
Non, je ne voulais pas rentrer dans les détails techniques, mais effectivement, c'est vrai, en tout cas dans le court terme, aussi les caisses de pension et bénéficient de ce taux d'actualisation faible.
Voilà. Dans le public, monsieur... À la micro.
Oui, voilà. Merci. Oui, du coup, je voulais juste revenir un petit peu sur cette idée du coup de globalité dont vous avez parlé avant. Parce qu'en fait il y a quelque chose qui m'a interpellée parce que je suis en deuxième année de droit en bachelor seulement, du coup j'ai pas tout suivi non plus vos discussions précédentes, mais en fait il y a certains concepts ou on peut dire en tout cas principes du droit que vous avez soulevé, justement traitement équitable, ce genre de choses, et ça m'a étonnée que ça ne soit pas déjà le cas. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus équitable qu'on varie l'âge de la retraite en fonction de chaque personne, plutôt que de mettre un âge fixe pour tout le monde. Puisque, bon, peut-être je le dis comme ça, mais c'est de faire différence, enfin, traiter de manière différente ce qui est différent et de manière identique ce qui est identique. Et du coup, c'est ça la définition du traitement équitable. Donc, finalement, quelqu'un qui a peut-être travaillé toute sa vie, qui a dans un travail où sa santé a été aggravée, ce genre de choses, où ce ne serait pas juste qu'il travaille aussi longtemps que quelqu'un qui a peut-être eu justement un travail beaucoup plus facile. Et donc voilà, je me demandais pourquoi ce n'était pas déjà comme ça à la base dans cette loi, parce que je ne l'ai pas étudiée, et puis je me demandais si ce n'était pas peut-être une peur un peu des fraudes qu'il pourrait y avoir, parce que souvent avec les assurances, c'est un petit peu ce qui revient tout le temps sur le tapis. Oui, mais si alors on prend des critères objectifs, comme par exemple s'il il y a des enfants, s'il y a un enfant justement handicapé, s'il y a des problèmes de santé, des gens utiliseraient ça pour tirer à leur avantage. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas peur de ça finalement? Parce que ce serait tellement plus logique que ça soit différent pour tout le monde, parce que chaque vie est différente.
Anne-Sylvie Dupont.
Alors, je vais anticiper sur mon cours que vous suivrez l'année prochaine, du coup, qui vous aurait donné la réponse à tout ça. Mais de nouveau, quand je disais que le système de prévoyance, il a été pensé à une époque où la société était beaucoup plus homogène que ce qu'on est aujourd'hui. Le système de prévoyance qu'on a aujourd'hui, il a été établi sur un modèle de société que j'ai déjà évoqué, avec l'homme au travail et la femme à la maison, éventuellement à temps partiel. Il a été aussi conçu pour des carrières professionnelles linéaires, c'est-à-dire qu'il a été conçu pour des gens qui entrent en banque à 18 ans, comme on entre au couvent, et qui en sortent à 65, sans chômage, sans interruption de carrière, sans changement d'employeur, avec une progression constante du salaire. Et c'est le modèle, au fond, sur lequel on s'est basé quand on a créé le système. Alors, les choses ont changé. On a fait des adaptations au fur et à mesure, quelques-unes, des petites, mais aujourd'hui, on a du coup un système qui ne tient pas compte de tout ce que Maître Longchamp a déjà évoqué, à savoir le fait qu'un jeune d'aujourd'hui va, d'ici sans cessation d'activité, changer 5 fois de métier, peut-être qu'il va lancer 3 start-up, faire 2 fois faillite, peut-être aussi que cette personne va divorcer, va avoir plusieurs enfants avec plusieurs conjoints différents ou partenaires différents. On voit aussi au niveau des structures des familles, aujourd'hui, on a des couples de même sexe qui aussi se posent la problématique des enfants. On ne veut pas trop les laisser avoir des enfants, donc voilà. Mais en même temps, on a besoin d'enfants parce qu'il faut financer la prévoyance. On a de plus en plus de familles, de couples et de femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants parce que c'est plus confortable de ne pas avoir d'enfants. Mon propos, ce n'est pas du tout de juger. Les gens font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'en ne faisant pas d'enfants, du point de vue de la prévoyance, vous avez un comportement égoïste, un comportement qui n'est pas solidaire parce que vous ne mettez pas sur le marché des gens qui vont financer la prévoyance. Vous ne vous remplacez pas vous-même par une personne qui va être active quand vous serez à la retraite. Donc, on a ce phénomène-là. Et puis aussi, on a encore un autre phénomène, et celui-là, c'est un phénomène qui me tient vraiment à cœur, et Mme Anschwanen en a déjà parlé, c'est ce déplacement de la solidarité. Vous voyez, l'AVS est un système qui a été conçu sur la base d'une solidarité étatique. Aujourd'hui, être solidaire avec l'ensemble des Suisses, c'est un truc problématique. Aujourd'hui, alors on a développé l'économie de partage, alors c'est magnifique. Vous êtes sûr que vous êtes super solidaire parce que vous avez prêté votre caquelon à fondu à votre voisine qui, en échange, a tondu votre gazon et vous avez donné des cours d'allemand à son fils et puis, en échange, vous avez reçu des courgettes, du potager. Voilà. Tout ça, c'est magnifique. Ça crée des micro-communautés très solidaires entre elles. Mais du coup, je veux dire, c'est des salaires qui ne sont pas soumis à cotisation parce que c'est des salaires. Un salaire peut être payé en nature. Quand vous recevez des courgettes contre un service, c'est un salaire en nature. Mais comme en fait, non, on est dans une économie collaborative, c'est du partage, c'est de la solidarité. Alors non, en fait, il n'y a absolument rien qui est fait à ce niveau-là. Et il y a comme ça toute une partie de l'économie qui échappe aux cotisations sociales et à l'impôt aussi. Hein. Alors, moi, j'ai pas dit que j'étais contre, j'ai pas dit que j'étais pour. J'échange aussi des courgettes contre des cours d'allemand. C'est pas un problème. Enfin, moi, c'est les cours d'allemand, je reçois les courgettes. Donc voilà. Mais c'est vrai que
Voilà, tout ça, il faut qu'on en parle. Alors moi, ça me fait même plus peur que les robots, en fait, parce que les robots, eux, ne seront jamais à la retraite. Enfin, ce n'est pas l'AVS qui va financer leur mise au rebut. Voilà, donc moi, je pense que tout ça, en fait, on devrait en tenir compte aujourd'hui pour aboutir, comme vous le dites, à un système qui permette de traiter les personnes de manière individualisée, mais en même temps, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, faire attention à ce qu'on n'aboutisse pas à des dérives où les gens peuvent faire n'importe quoi. Et là, c'est là qu'intervient le droit, c'est que les critères, ça se fixe. Les critères, ils se fixent. Et dire que si vous avez... regardez, par exemple, dans l'AVS, vous avez un truc qui s'appelle la bonification pour tâches éducatives. C'est un truc qui améliorera votre retraite si vous avez des enfants. Ben, les conditions, elles sont clairement posées dans la loi. Vous ne pouvez pas tricher. Hein. Vous pouvez pas tricher. Vous pouvez optimiser. Je vous apprendrai comment l'année prochaine. Mais vous ne pouvez pas tricher. Voilà.
Très bien, merci. Monsieur
Oui. J'ai entendu les exposer avec intérêt. Mais disons, je n'y trouve pas mon compte. Je vais dire pourquoi. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions sociales et politiques, ça fait quand même quelques dizaines d'années, quand on me parlait de réforme, je pensais, et puis c'était le sens commun de ce mot, c'était une amélioration. Ce que j'entends dans les débats politiques, dans la presse économique, qui n'est pas du tout indépendante, eh bien, c'est le mot réforme. Je me demande quelle arnaque, quel coup fourré il y a derrière. Et de ce point de vue-là, je pense effectivement que la société a changé depuis qu'en 1948, l'AVS a été introduite. Il y a beaucoup de facteurs. Bon, il y a certains qui ont été cités. Le temps partiel des femmes, qui n'est pas toujours un temps partiel choisi, et loin pas. Il y a aussi un problème qu'on n'a pas abordé. Aujourd'hui, bien, il y a une tendance assez lourde. Quand vous avez passé l'âge de 50 ans, eh bien, vous n'êtes plus considéré comme rentable, vous êtes considéré comme trop cher, notamment à cause du deuxième pilier. Je base cette affirmation sur deux témoignages des deux parties. Un travailleur italien licencié me disait, quand il faisait ses recherches d'emploi, ben, le patron chez qui j'allais me disait « Oui, vous êtes qualifié, mais je ne peux pas vous engager à votre âge. Vous allez me coûter les yeux de la tête avec le deuxième pilier. » Et puis, quelques jours plus tard, je croise un petit patron camionneur qui me connaissait. Et puis, on discute de choses et d'autres, et notamment de la question des retraites. Et puis, il me dit, c'était bien sympathique avec tes idées. Mais si j'engage un gars de plus de 50 ans, il va me coûter les yeux de la tête avec le deuxième pilier. Donc, conclusion, pour une fois que le patron et l'ouvrier disaient la même chose, et là, il y avait une vérité. Donc, moi, je dois dire que tous ces plans de réforme dont on discute aujourd'hui, entre partenaires sociaux dont le Conseil fédéral discute et puis qu'il a confié la tâche délicate de faire passer, de faire avaler ses couleuvres à un dénommé socialiste nommé Alain Berset, tout ça ne m'inspire pas confiance. Ma position, c'est sur la question de des retraites. Quel que soit le système qu'on a, qu'on ait un système de sécurité sociale généralisée, qu'on ait un système basé sur la répartition, ou bien un système qu'on ait, ce système, quel qu'il soit, il devrait assurer, j'entends des retraites correctes aux gens qui partent à la retraite. Je suis un peu inquiet sur l'idée d'individualisation qui a été formulée, parce qu'effectivement, quand on a créé les systèmes de retraite, et ce n'est pas forcément les socialistes qui l'ont créé, le premier qui l'a créé, c'était Bismarck. Eh bien, il a bien fallu choisir les critères. Bon, Bismarck, qui était habile et cynique, disait, bien, à quel âge meurent les ouvriers ? On lui a répondu à 65 ans. Très bien. On fixera l'âge de référence à 65 ans. Donc, vous voyez que c'est que le problème est éminemment complexe. Donc, moi, je dois dire, par rapport à tout ce que j'ai entendu ce soir, je suis extrêmement sceptique sur les projets qui sont en gestation. Et puis, je dois dire que j'y trouve pas mon compte. C'est-à-dire que vous me direz, bon, toi, t'es retraité. C'est vrai, je suis retraité. Mais disons, ce qui m'inquiète, c'est pas ma retraite. C'est la retraite, j'entends, des gens qui viendront après moi. Quand je bossais, et puis qu'on discutait entre collègues de cette question, moi, j'étais estomaqué d'entendre des collègues plus jeunes dire, ouais, mais de toute manière, moi, j'aurai pas de retraite. Et parce qu'il y a dans la presse économique qui n'est pas indépendante, je maintiens cette affirmation, eh bien, il y a des, des scénarios alarmistes, il y a des choses qui sont affirmées, à mon avis, à la légère, et puis elles sont basées sur un bon vieux principe énoncé par le président états-unien Harry Truman, qui a succédé à Roosevelt après la Deuxième Guerre mondiale. Quand on lui demandait comment faire quand il y avait un problème sérieux pour le résoudre, il répondait ceci: flanquer une sacrée trouille au pays, et j'ai un peu l'impression que c'est en train de se passer.
Très bien, merci pour votre intervention. Isabelle Amschwand, si vous voulez réagir.
Oui, peut-être juste par rapport aux bonifications vieillesse, hein, c'était un des éléments, parce que je ne vais pas répondre à tout, mais c'était un des éléments centraux de votre discours que je peux tout à fait suivre. À l'époque où ça a été mis en place, en fait, on voulait mettre en place un système de primauté de prestation, donc définition de la rente par rapport en pourcentage du dernier salaire. Les auteurs de la loi, le législateur ont changé d'avis au dernier moment et on a abouti avec cette échelle en fonction de l'âge. Les propositions vont dans votre sens, dans le sens où on va augmenter plutôt vers les jeunes, diminuer vers les plus âgés pour maintenir justement en activité. En ce qui me concerne, je serais très fan d'un système linéaire, c'est-à-dire de commencer plus tôt à cotiser un petit peu plus et puis de cotiser sur toute la carrière un même montant, parce qu'un franc économisé à 20 ans vaut beaucoup plus qu'un franc économisé à 50 ans. Je pense qu'on paierait moins pour avoir plus en ayant un système linéaire. Par contre, après se posera toute la problématique des mesures de transition. On va déboucher sur d'autres problèmes. Et puis après, le système actuel aujourd'hui, alors là, je m'adresse peut-être aux jeunes. Les jeunes trouvent que c'est plutôt sympa, parce que quand on est jeune, on a une famille où on a envie de faire plein de choses, ben, on a plus de cash à disposition. Et puis, la théorie voulait que quand on était plus âgé, on avait peut-être moins d'envie, donc on avait besoin de moins de cash à disposition, on pouvait mettre plus d'argent de côté. Mais l'évolution, la société a aussi évolué de ce côté-là. Mais je suis d'accord avec vous, on doit tendre vers ça, et les propositions tendent dans cette direction.
Juste une chose, dans certains domaines, il y a des conventions collectives qui prévoient précisément le taux identique, quel que soit l'âge.
Il y avait monsieur qui voulait intervenir.
Peut-être juste une remarque générale, et je rejoins complètement Madame Dupont qui dit un peu lever la tête et regarder un peu les problèmes sociétaux, avec quand même la difficulté générale. C'est qu'on a, on a dit avant, on a un bon système. Si je prends le deuxième pilier, système collectif, qui a une mutualisation des risques, qui a des solidarités. Et puis finalement, face à ça, on a quoi ? On a une individualisation de plus en plus de la société. Et je dois dire que c'est notre grosse difficulté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut communiquer davantage. Mais quand je regarde autour de moi, mes amis me disent toujours l'invalidité, le décès, c'est pour les autres. Et la retraite, elle est beaucoup trop loin. Donc on sent qu'on est vraiment dans ce système-là. Même plus généralement, je dirais la prévoyance, c'est quoi ? C'est préparer le futur dans le monde de l'immédiateté. Et c'est la difficulté, le risque. Quand une de ces personnes tombe invalide, elle me dit tout à coup, ah, finalement, c'était bien comme je suis couvert, et c'est bien ce système. Et le risque au-devant duquel on va tous, ou majoritairement, c'est le risque de vieillesse qui s'appelle retraite. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on découvre finalement que ce n'était pas si mal de cotiser pour avoir cette couverture-là. Puis il faut qu'on arrive à le faire entendre à 20 ou 25 ans de ce côté-là. Mais je dois dire que nous, caisses de pension, on rame un petit peu pour arriver à faire prendre conscience des gens, parce que vous l'avez dit, Madame Schwanden, ils s'intéressent à leur salaire net. Donc finalement, l'important, c'est d'avoir le moins de déductions possible. Après, on a parlé beaucoup de l'âge, et encore deux autres points, on a parlé beaucoup de l'âge de la retraite, par exemple. Si on regarde la caisse de pension elle-même, ben on me dit qu'on est en train de vivre toujours plus longtemps. Finalement, si on veut garder l'équilibre, c'est la meilleure solution. C'est de dire qu'on augmente l'âge de la retraite pour que je cotise plus longtemps et puis pour que cette consommation reste à peu près identique. Ça rejoindrait aussi ce que dit monsieur, c'est que sinon, on me dit quoi ? On me dit qu'il faut cotiser toujours davantage pour avoir les mêmes prestations, mais c'est là qu'on voit toute la complexité, on doit le prendre dans son ensemble, parce que moi je trouve bien gentil qu'on m'augmente l'âge de la retraite à 70 ans, mais si à 60 ans on me dit qu'on veut plus de moi sur le marché du travail, et ben voilà la difficulté, de nouveau les caisses de pension qui ne peuvent pas réfléchir toutes seules, mais avec l'ensemble. Et juste un point sur les taux négatifs, Là, je suis un peu plus négatif justement sur cette valeur-là, parce qu'on dit finalement, on entend, moi je comprends très bien la BNS qui dit on est une société exportatrice, donc il ne faut pas que le franc prenne trop de valeur. Nous, caisse de pension, moi je ne me vois pas vraiment comme une société exportatrice, et quand on doit verser 20 millions de rentes tous les mois, on ne peut pas donner un bout d'action ou un bout de pierre d'un immeuble, donc on doit avoir ses liquidités. Je dois avouer qu'en tant que caisse de pension, j'ai un peu de mal à voir la BNS faire des milliards de bénéfices et finalement d'aller chercher une partie sur les assurés, parce que nous, on doit vivre avec ça. Et la conséquence, j'ai l'impression qu'il y a un aveuglement à ce jour, parce qu'au début des années 2000, on avait le taux sans risque qui était à 4%, puis c'était l'intérêt crédité. Donc ça allait bien, on ne prenait pas trop de risques pour faire des bons rendements. Aujourd'hui, ils sont négatifs, ils sont passés par moins à un moment donné. Et une caisse de pension, pour verser les bonnes prestations, elle doit faire du 2 à 3% de rendement. Ce découplage, lui, il m'inquiète davantage. Et nous, je dois dire, caisse de pension, on aimerait bien que les taux remontent. Même si je comprends qu'on n'est pas tout seul hein, finalement sur ce marché, qu'il y a cette société exportatrice, mais pour les caisses de pension, franchement, c'est une difficulté. On ferme un peu les yeux parce que temporairement, il y a les obligations qui prennent la valeur, puis on se dit youpi, finalement, c'est pas si mal. Mais à long terme, j'entends tous les rendements, c'est le taux sans risque plus une prime de risque. Si le taux sans risque part à la cave, ça veut dire que ces attentes de rendement en moins, c'est un peu ce qu'on nous prédit, ben, finalement, elles vont se réaliser. Peut-être un peu plus tard et une nouvelle fois, finalement, on aurait eu de peine à l'anticiper. Donc là, je suis un peu plus négatif vraiment sur ces taux parce que ça m'inquiète et j'aimerais plutôt les voir repartir dans l'autre sens assez rapidement.
Je vais peut-être juste réagir sur le premier point que vous avez dit. C'est un sujet qui me préoccupe aussi beaucoup et puis ça nous permettrait peut-être de parler aussi du pilier dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est le troisième. On a actuellement donc, ce système de trois piliers qui a été conçu à l'époque en se disant ben, voilà, le premier et le deuxième doivent en gros couvrir 60% du dernier revenu et puis ben, pour les 40% qui restent, ben, c'est à chacun de se débrouiller. C'est la responsabilité individuelle, vous devez épargner. Donc c'est pas qu'on a jugé que 60% c'était suffisant, c'était pas ça l'idée, c'était l'idée que les citoyens allaient de leur côté se débrouiller pour avoir les 40% restants. Donc en réalité la prévoyance c'est l'État, les employeurs et chacun qui doit constituer sa prévoyance. Et le problème, je pense, ce que vous avez dit, c'est très juste, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a aussi un changement des mentalités. Ça, on le voit notamment avec la génération des millénials. J'ai la chance d'avoir un petit frère qui a 10 ans de moins que moi. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a été élevé par les mêmes parents, avec les mêmes valeurs, les mêmes idées. Mais alors, autant moi, j'ai été élevé et j'ai encore cette conviction que épargner pour ma retraite, c'est le but de ma vie. Lui, absolument pas. Lui, il veut faire des stages de didgeridoo yoga en Australie, il veut vivre des trucs. Et puis alors, épargner pour ça quoi ? Et par quoi ? Et en fait, le problème, c'est que lui, troisième pilier, je pense qu'il pense que c'est un gros mot, en fait, je sais pas. Je crois pas qu'il sait ce que c'est, je crois pas qu'il a envie de faire ça. Et effectivement, je pense que du coup, prévoyance professionnelle, etc., etc., c'est quelque chose d'assez abstrait pour eux.
Juste peut-être pour terminer, c'est finalement résumer votre intervention à comment socialiser l'individualisme.
Au tout début, vous avez parlé des caisses de pension qui appartiennent au peuple. J'aurais voulu entendre une...
Ah, les caisses de pension, elles vous appartiennent. Les caisses de pension, elles appartiennent à leurs assurés.
Comment, quand... on veut retirer la somme entière du deuxième pilier ou autre, on ne peut pas. Comment est-ce que ça nous appartient ?
Alors, il y a quand même certaines règles. Parce
ou alors, par rapport aux investissements qu'on va faire avec l'argent qu'on cotise le long de notre vie,
ouais.
Comment est-ce qu'elle nous appartient exactement ?
Alors, si vous voulez, chaque franc, lorsque vous travaillez pour un employeur, alors là, on part sur employeur-employé, vous êtes soumis obligatoirement, à partir du moment où vous remplissez les critères en termes de revenus, vous êtes obligatoirement soumis, à la VS de toute façon, mais à un deuxième pilier. Chaque montant que vous épargnez, alors en Suisse, on a deux systèmes, le système des fondations, qui est le système majoritaire, ou des coopératives. Mais en fait, vous êtes coopérateur, mais en fait, chaque franc versé dans une caisse de pension, c'est un franc qui est versé de manière irrévocable. Donc, si la caisse de pension devait être liquidée du jour au lendemain, qui recevrait l'argent ? C'est tous les bénéficiaires qui sont dans la caisse de pension. Ça ne sera pas un retour à l'employeur. Même chaque franc qu'un employeur met dans une caisse de pension, c'est un franc qui est mis définitivement dans la caisse de pension. C'est dans ce sens-là que les caisses de pension vous appartiennent. Après, pour retirer votre argent, et là aussi, les caisses de pension, sur le principe, elles sont gérées de manière paritaire. Le conseil de fondation d'une caisse de pension, c'est 50% représentation employeur, 50% représentation employé. Je fais partie d'un conseil de fondation, je suis une représentante employeur, et il y a des représentants employés, donc qui sont là pour représenter les intérêts des deux groupes, qui sont souvent... En Suisse, on a une chance exceptionnelle, je pense, en tout cas dans ce que j'ai vécu durant toute ma carrière, où les conseils de fondation arrivent souvent à s'entendre, à avancer de manière assez relativement harmonieuse. Mais en fait, vous avez cette représentation paritaire. Maintenant, pour placer l'argent, c'est le conseil de fondation qui décide de comment l'argent est placé, ou les commissions de gestion, si c'est une fondation collective, en tout cas dans celle que je préside. Et puis, par rapport à retirer son argent, le but de verser de l'argent dans une caisse de pension, c'est pas de pouvoir décider, ah, demain, j'ai envie de m'acheter une voiture, je vais prendre l'argent qui est dans ma caisse de pension, c'est comme un compte épargne. Il y a quand même certaines règles qui sont fixées, parce que justement, c'est un épargne forcé, c'est l'épargne le plus important du peuple suisse, c'est un épargne forcier. Puis il y a certaines règles qui vous disent si vous pouvez retirer de l'argent de votre caisse de pension ou pas. Si vous partez définitivement à l'étranger, si vous achetez une maison, en tout cas pour une partie, etc., etc. Mais il y a certaines conditions, ou alors un départ à la retraite.
Vous l'avez dit, c'est une épargne forcée.
Oui, c'est une épargne forcée, mais pour votre bien, pour votre bien. Parce que le but, c'est de pouvoir maintenir le niveau de vie le jour où vous arrêtez de travailler, plus ou moins.
C'est vous-même qui avez dit que vous croyez que les gens, les citoyens, sont dotés de bon sens.
Oui.
Et bien alors, pourquoi ne sommes-nous pas propriétaires de nos propres retraites, de nos propres sous que nous mettons de côté? Ben écoutez, moi je vois un peu ça comme si on nous prenait pour des sots.
Les assistés.
Qui ne savent pas. Voilà, oui, c'est ça, mais c'est ça. J'ai une deuxième question aussi par rapport à la jurisprudence, et c'est que vous êtes bien professeur de loi ici à l'université, et ça m'a un peu étonné et surpris que vous parliez d'économie collaborative et que vous soyez à l'aise à échanger une pomme de terre contre des cours de français et autres dans une économie où toutes les transactions ont été monétisées, passent par un échange de monnaie, où la monnaie d'échange a été universalisée. Ce genre de comportement, à mes yeux, c'est pas un euphémisme, c'est de la corruption, à mon avis. C'est un échange de faveurs qui n'est pas catalogué, qui n'est pas répertorié, qui n'est pas taxé, qui n'est pas soumis à quelconque contrôle. Donc ça permet à des abus conséquents.
Ouais, alors écoutez, je ne vais pas vous dire que ce que vous venez de dire est constitutif d'une calomnie, éventuellement d'une diffamation, parce qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en l'occurrence, je vous rassure, je n'ai jamais accepté de courgettes contre un 6 à un examen. Ça ne marche pas. Voilà.
Peut-être 100 000 courgettes, tout à un prix.
J'aime pas assez les courgettes, mais on peut s'entendre.
Bon, moi, c'est juste des petites remarques. Vous en pensez ce que vous voulez. Quand je suis arrivée en retard, parce que je cherchais ce qu'il y avait comme sujet, je suis allée à la bibliothèque, ils n'ont pas trouvé, je suis quand même allée voir. Alors, vous aviez dit, Madame Amschlund, je ne sais pas pourquoi vous avez dit ça, qu'à l'hôpital, quand quelqu'un arrive à 65 ans plus un jour, il est envoyé en gériatrie.
Oui.
Alors moi, j'ai eu un grave accident il y a 33 ans et demi, et j'avais besoin de conseils. Et donc ça a duré très longtemps avant que j'obtienne l'AI, 12 ans, bien que l'AI disait « oui, oui, vous y avez droit ». Et mon médecin disait, oh, moi, j'ai qu'une personne à l'AI dans mon... Alors, passé 12 ans. Et pendant ce temps-là, je perdais tous mes boulots parce que je devais tout écrire. Ce n'était pas possible. Et finalement, j'ai travaillé plus que deux demi-journées par semaine. Et au bout de 12 ans, moi, j'ai eu l'AI basée sur ça, pas sur ce que je gagnais avant l'accident. Bon, ça, c'est une chose. Alors, une autre chose, j'ai travaillé pour un centre de recherche bien connu. Et puis quand je suis partie de là, parce que je travaillais temps partiel, avec trois enfants, une maison, un jardin. Et puis, il voulait quelqu'un à temps complet. Alors j'ai dit, oh, moi, je prends ma caisse de retraite. Puis, il dit, non, non, faut la garder. Je dis, mais quand je serai vieille, hein, je serai peut-être plus là. Non, quand même. Et moi, je regrette. Alors, je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Et puis, la troisième chose, je viens de rentrer d'Angleterre où je suis allée voir mon fils qui a plus de 50 ans, qui travaille plus de 60 heures par semaine. Il a calculé l'autre jour que s'il travaille jusqu'à 67 ans, il touchera comme retraite, je ne sais plus si c'était 163 livres par mois. Alors, on est allé chez ses oncles et tantes, et sa tante a dit, « Oui, mais il va avoir quelque chose en plus. » C'est n'importe quoi. Alors, plaignez-vous ici. Hein. Allez en Angleterre.
Voilà, je crois qu'on arrive à la fin du débat. Alors, je remercie le public pour les interventions et questions et l'excellente prestation des différents intervenants dans ce panel. Et je vous souhaite une bonne soirée.